Certains propos de ce programme ne sont pas adaptés aux jeunes auditeurs. Bienvenue dans le Jeudi Sexy avec le Dr Nastia.
Et je rappelle les amis, le Dr Nastia est avec nous ce matin. Je tiens à préciser vraiment un message avant de commencer l'émission de ce matin. Bonjour docteur, bienvenue.
Bonjour John, bonjour à tout le monde.
Bonjour. Un
message important à tous les amis, Nastia est mariée. Tu vois, les gens me harcèlent déjà. Les docs sont mariés.
Je suis sauvage. Attends, je me positionne. Jamie, attends. Pourquoi tu filmes ça? Attends. Tu es prête? Je suis sauvagement mariée. Je suis mariée salement, malement. Donc, je ne sais même pas. Mes oreilles débordent du mariage. Donc, tout mon corps transpire le mariage.
Bref, elle ne va pas vous regarder.
Franchement, message important parce que je n'arrive pas. J'étais ce début de semaine chez des partenaires.
C'est tout comme ça.
Et j'ai un patron, j'ai vraiment un grand des patrons d'entreprise qui me dit, gars, il faut que tu me branches avec Nastia. C'est mon vraiment frère. Mon genre de femme.
Il
m'a parlé pendant.
Il m'a parlé
de manière sérieuse. Pendant 15 minutes.
Le problème, c'est que.
Tu as un mystère pour beaucoup d'hommes.
Je lui dis qu'elle aime la vie. Je ne peux pas croire que la femme s'est mariée, gars.
Comment ça?
C'est impossible.
N'est-ce pas?
Il y a forcément
un. Je lui dis que, gars, elle
est. Une femme intelligente se cache un homme sage.
Voilà.
Je lui ai dit qu'elle est sauve. Et elle n'est pas mariée, le genre de mariage. On s'est marié. Ouais, elle est mariée, elle aime son mari.
Je suis spirituellement mariée.
Et son mari fait super bien.
Je suis spirituellement mariée.
Franchement.
C'est un mariage qui est d'abord spirituel.
Voilà.
C'est mon mari biologique.
Voilà.
Donc je suis mariée à mon mari biologique.
Donc franchement, je tenais à le dire ce matin parce que chaque fois que je vais dans un bureau,
c'est comme ça.
Tu as tout un gars qui se dit que gars.
Non, c'est parce qu'ils se disent qu'en fait,
la femme, si nous comprend trop.
Et moi, je leur dis toujours ça parce que d'autres réussissent même à payer les consultations. Genre, ils veulent consulter, ils viennent consulter et tout. Maintenant, quand ils viennent consulter, je dis que tu aimes ce que je propose. Je dis oui, je dis ok. Dans ce que je propose, prends ce que toi tu ne proposes pas, associé à ce que l'autre ne propose pas, rectifiez ça et vous serez heureux. C'est ça.
Franchement, les amis.
Tout.
Il y a des gars qui me font des segments. Je peux même pas les dire à l'antenne, mais les gens fantasment.
Il y a même des gens que quand elles parlent comme ça, tout ce qu'elles disent là, c'est pas ça qu'ils entendent. Oui, en fait, gars, elle est mauvaise, elle parle bien, machin et tout.
Non,
ça,
ils vont comprendre.
Ils ne veulent pas comprendre.
Comprenez les gars.
Franchement, je vous jure.
Le fantasme n'est pas interdit.
Mm-hmm.
Ce qui est dangereux, c'est de ne pas bien utiliser le fantasme à bon escient. Non, pas que tu ne sortes pas. Mm. Le fantasme, c'est un peu comme l'histoire avec les publicités des bonbons, avec les enfants. Tu vois, quand on fait une publicité de bonbons, c'est pour inciter les enfants à consommer du bonbon. Mm-hmm. Mais parfois, c'est même pas un bonbon ciblé. Tu vas voir un enfant qui a vu, parce qu'on a fait la pub du bonbon, parce que le bonbon, c'est la sucrerie. Il va avoir tout bonbon, il veut sucer le bonbon. Donc, restez concentré sur l'effet du truc. Prenez l'effet, transposez ça sur vos propres vies.
Mm-hmm.
Voilà, parce que c'est ce que moi, je fais. Moi, parfois, je réécoute les émissions. Parce qu'il faut savoir que quand c'est la professionnelle qui parle, c'est pas la personne humaine qui parle.
Bien sûr.
Je réussis toujours à faire ce détachement-là entre les deux personnes et tout. Donc voilà.
Et justement, tous te disent que ouais, elle comprend, machin.
Oui, c'est ça.
Et ça veut dire qu'à la maison, je lui dis que bon,
oui,
après,
c'est vrai.
Je dis bon, oui et non. Parce que oui, parce qu'effectivement, c'est elle qui donne les conseils, mais non, parce qu'elle est professionnelle quand elle est à l'antenne.
Oui, beaucoup.
Et il y a même, je lui dis que tu t'amuses même. Il y a aussi les erreurs qu'elle commet en tant que femme à la maison.
Non, c'est faux, je ne commets pas d'erreurs.
Oh là là, mais je disais ça pour les décourager.
Non, je ne commets pas d'erreurs parce que je t'ai dit, je réécoute mes émissions.
Oui. Non, pas à la maison.
Je ne parle pas de.
Mais en tant que femme, moi-même, je m'enseigne, je m'éduque, non. C'est pour dire que quand je suis ici à volume 3, en aucun moment mes pensées profondes en tant que femme ressortent.
Ouais.
Je le disais derrière mon mari quand on discutait. Je lui disais, mes émissions m'aident aussi. Parce que moi, quand je suis dans mon personnage, je suis vraiment focus dans le médecin, quoi, tu vois un peu. Maintenant, quand je ressors de là, je réécoute ce que je me suis dit, ce que j'ai dit aux auditeurs, et je me retrouve peut-être face à une situation qui est pareille. J'applique limite la logique scientifique. Je disais, il y a une patiente, à tous les niveaux de ma vie, je le fais.
Déjà, un ami qui me disait que franchement, son homme, non, celui qui plante. Mais
c'est ça, tout le monde.
La star, c'est mon mari.
C'est ça.
Les gens s'imaginent que.
Maman, une femme comme ça.
Que son mari vole seulement.
Ceux qui connaissent, il y en a beaucoup qui connaissent mon mari. Ça, c'est clair. Parce que j'ai même des patients. J'ai des patients qui se sont retrouvés à connaître mon mari qui était très gêné de se rendre compte qu'il parlait de moi et le mec il était assis. Tu vois un peu, j'avais fait les commentaires.
Comme son mari, c'est quelqu'un d'extrêmement discret.
Il est trop timide, le type.
Mais vraiment, il est assis là, les gens.
Oui, on faisait les commentaires. Donc en fait, tu vois, quand j'entre dans leur réunion, moi je viens le chercher. Le gars dit, mais Doc, je dis oui. Tu es dans la réunion? Je dis non. Je suis venue récupérer mon produit. Quel produit? C'est qui? Je demande mon mari. Dit, oh, tu n'es pas sérieux. C'est avec toi qu'elle faisait les commentaires sur la femme, sinon. Mon mari dit que mais tu faisais les commentaires sur Docteur Nasser. Tu faisais les commentaires sur ma femme.
Ça veut dire que vous êtes tous les deux très alignés. Il y a le Docteur Nastia.
Exactement.
Il y a mon épouse que j'ai douté avec mon agent.
Si mon mari entre dans la radio, c'est à volume 3. Il dit que sors. Je vais vous regarder, puis vous ne connaissez pas.
Alors, le mari.
Et c'est important.
Heureusement qu'il nous a laissé la professionnelle. Parce qu'elle est mariée. Ils prennent la femme, ils prennent la professionnelle.
Je vous dis que tu n'as été réunie. Hein, donc. Quand le coq ne chante. Si mon mari dit que.
Tu as raison, maman.
Si mon mari dit que. Stop.
Tu t'arrêtes qu'elle est postée.
Il dit que ne veut plus la vidéo là. C'est fini.
Il ne peut pas dire qu'il ne veut plus la vidéo là parce qu'il a compris que.
Ouais.
C'est mon travail, tu vois. C'est pour ça que c'est mon mari. Parce que
aussi,
tu peux pas être mon mari.
Aussi,
tu ne comprends pas ça.
Voilà.
Tu vois un peu.
Exactement.
C'est pour ça que c'est mon mari. Mais je dis dans le sens aussi l'estime.
Oui, oui, oui.
Parfois que je me fais exploiter ou bien que les gens abusent. Il va me dire non, écoute, ce secteur-ci. C'est pas
le bon, effectivement.
Papa, comme je sais que c'est quelqu'un qui est très compréhensif, qui est très dans les analyses, et c'est quelqu'un de très humain, c'est-à-dire que ce que je fais, il voit autour de lui l'impact. Mmh. Il voit que ça aide les gens, il voit que ça accompagne les gens. Il y a des témoignages que lui, c'est-à-dire que lui, limite, souvent, il dit dans son travail que vous connaissez la clinique de ma femme, non, allez faire des témoignages là-bas. Moi, je reçois souvent les cachets des collègues de mon mari. Donne un pas à madame, elle m'a aidé dans un problème là, elle ne sait même pas. Va un peu donner. Et c'est ce que j'attends de vous, vraiment. Les collègues de mon mari continuent comme ça. Les gars m'envoient les enveloppes constamment.
C'est bien.
Que, mais, donne un pas à madame, elle a fait un truc là. C'était intéressant.
Les amis, franchement, j'étais chez un annonceur qu'on veut rajouter dans le truc. Et le gars me dit que, gars, tu sais que pour que tu le marché, sinon il faut que les gars, bien sponsorisé. Là, tu comprends?
Non, cela, tu laisses.
Je suis.
Elle va faire la photo. Je lui ai dit que le maximum qu'elle va faire, c'est de faire la photo avec toi.
Il n'y a pas de souci.
Tu pourras faire ce que tu veux.
Je suis sauvagement mariée, incroyablement, sarcastiquement fidèle.
Voilà. Ce matin, nous allons parler aujourd'hui de l'hypersexualisation, docteur. On a évoqué le fait de parler de ça cette semaine. Quand le sexe devient une vitrine, mais pas une expérience. Alors, on vit dans un monde où le corps est partout. On disait la semaine dernière, sur les réseaux, dans les clips, les publicités, c'est partout. On like les courbes, on vend les fesses, on confond le désir, la performance. Les seins sont partout, je les vois partout.
Comment les fesses?
Enfin oui, je les vois partout les fesses, les seins aujourd'hui. On parle d'un phénomène mondial qui est l'hypersexualisation, cette obsession de la sexualité qui transforme le plaisir en image, le charme en stratégie et le rapport en soi en vitrine. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quels sont les dangers? Surtout, comment retrouver une sexualité vraie, sincère et apaisée? Je rappelle, pour en parler, notre fidèle sexothérapeute est avec nous ce matin. Fidèle et marié sexothérapeute.
Sarcastiquement.
Elle fait qu'insister sur sarcastiquement, je comprends pas. Avance.
Docteur Dachette avec nous ce matin. Alors, docteur, déjà comprenant le phénomène, c'est quoi l'hypersexualisation?
L'hypersexualisation, c'est être excédemment dans tout ce qui est sexuel, c'est-à-dire de ramener tout à la sexualité. Tout, peu importe le domaine, c'est-à-dire que si tu es, fan de vêtements, tout, il faut que ce soit dans ta posture, il faut qu'on ressente que voilà, tu as du sexe à pile, des trucs comme ça. Et maintenant, sur un plan de vue physique, l'hypersexualisation, ce sont des personnes qui sont tellement tirés et conduits par tout ce qui est instinct, impulsion sexuelle, que voilà, la norme et la logique n'a plus vraiment sa place.
Est-ce que c'est un phénomène nouveau? C'est seulement un peu plus visible?
Moi, je vais dire oui et non. Oui, parce que c'est nouveau, parce qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui se donnent beaucoup plus à l'hypersexualisation. Non, parce que les hommes ont toujours été hypersexualisés. Pourquoi? Parce que il y a pas de limite quand on voit l'éducation sexuelle de nos hommes en Afrique. Il y a pas de limite dans leur sexualité. Pour beaucoup, il n'y a pas de limite. Il y a pas de base solide. Ça fait que la sexualité est la phrase fétiche. Un bon bantou, un bon homme africain, c'est celui-là qui sait se mettre en érection devant une paire de fesses. Et voilà. Et pouvoir entrer dans la paix de fesses, dans toutes les paix de fesses. D'ailleurs, tu entends souvent les gars qui tapent sur la poitrine que moi, en tant que bantou, je peux avoir toutes les femmes que je veux. C'est de l'hypersexualisation.
Justement, parlant d'hypersexualisation, docteur, c'est quoi la différence entre la sexualité libre et la sexualité hypersexualisée? Parce qu'on peut être quelqu'un de libre, vouloir avoir des aventures. C'est quoi la différence entre les deux?
La sexualité libre, c'est quelqu'un qui, autour de lui, ses compagnes, ses conquêtes, même des femmes, d'ailleurs, ça existe déjà aussi chez les femmes, savent pertinemment qu'on est en relation libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir une conquête, deux conquêtes et tout. C'est permis. L'hypersexualisation vit déjà à la compulsion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de manière compulsive, tu diriges tes pensées et tes actes vers tout ce qui est sexuel. Mmh. Les relations libres, le libertinage relationnel, c'est une orientation de vie. Mmh. Un peu comme, je sais pas...
Comme le BDSM.
Voilà. C'est-à-dire, c'est un choix, c'est un modèle qu'on choisit. Par contre, l'hypersexualisation, en réalité, parfois, on ne se rend pas compte qu'on est borderline avec des psychopathies.
Comment est-ce qu'on peut donc expliquer que notre société soit devenue obsédée autant par l'apparence et la performance sexuelle?
Moi, j'ai fait ça, je me suis concentrée dessus. Parce que j'ai essayé d'évaluer deux catégories de mes patients. Les patients de 70 en descendant... Et les patients de 70 en montant, des années 70, quand je dis 70, des années 70. Je me suis rendu compte que dans l'ancienne génération, ce sont des hommes qui ont longtemps su qu'ils avaient l'usage libre et libéral de leur corps et de leur sexualité, qui ont imputé des traumatismes psychologiques à les femmes, aux femmes, pardon. C'est quoi le mauvais français? Comme si hier j'ai fait une conversation en anglais, ça m'en fout. Donc, qui ont imputé beaucoup de traumatismes psychologiques aux femmes de leur époque qui, elles, à leur tour, ont élevé des filles dans ces traumatismes-là. Ça fait que la nouvelle génération, maintenant, ce sont les femmes qui sont hypersexualisées et qui se sont hypersexualisées pour booster leur confiance en elles et montrer justement leur force face à la gente masculine. Je ne sais pas si tu comprends.
Je comprends très bien.
C'est-à-dire que c'est une génération qui naît de traumatisme. Parce que la femme de l'époque, c'est une femme mère couverte, soumise, j'ai envie de dire quoi, qui se contentait et qui mariait, parce que la plupart des schémas des femmes mariées de l'époque, ce sont des femmes cabas, maison, bébé et tout. Mais qui, en tant que femme qui souffrait et qui subissait dans le silence, parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de gars, je fais une parenthèse, dit que nos mamans, ce sont vos mêmes mamans qui ont élevé les filles d'aujourd'hui et vos sœurs. Mais quand vous parlez de la maman, la belle-mère, parle aussi de ta maman côté de tes sœurs. Ce sont ces mêmes mamans-là qui ont donné des conseils à leurs filles aujourd'hui, qui leur ont dit que ma fille, ton premier mari, c'est ton travail. Vraiment. Et ces filles-là, de manière, parfois, c'est pas intentionnel. C'est-à-dire, quand tu regardes, parce que quand tu regardes la vie de ta mère ou de ta grand-mère, elle ne t'inspire pas. Les gens disent souvent qu'il faut prendre ta mère comme inspiration, mais en réalité, ce que tu l'as vu endurer, ce qu'elle a dégagé, n'était pas inspirant. Ce qui était inspirant, c'était peut-être l'appétit de ton père. Peut-être parce qu'on est dans des standards où la société impose aux gens une certaine, un certain statut de vie, standing de vie. Tout le monde veut être bien dans sa vie. Alors, si tu as vu ta maman avec les cabas, mais malgré sa droiture, être un peu psychologiquement malmenée, ça fait que toi, aujourd'hui, tu dis, je suis une femme, je m'assume dans ma posture de femme, je suis sexy, je suis intelligente. Maintenant, c'est vrai que le problème d'intelligence, c'est là aussi, il faut qu'on revienne dessus. Je suis sexy, je suis belle, je suis intelligente et je suis indépendante. Ça veut dire que ma vie ne sera pas autour d'un homme, elle ne sera pas basée sur un homme et tout. C'est moi qui tiens les commandes, c'est moi qui choisis avec qui je suis et où je vais. Donc, moi, j'ai fait des études. Bon, pas des études, j'ai pas mis les stats au sol, mais j'ai fait des comparaisons dans les deux générations. Et je me retrouve donc avec quel résultat? La catégorie de 70 en descendant, c'est une catégorie où ce sont des femmes qui avaient des troubles sexuels. La catégorie de 70 en montant, c'est une catégorie où ce sont les hommes qui ont beaucoup de troubles sexuels, qui prennent des excitants, qui prennent... Parce qu'aujourd'hui, les femmes, elles en demandent plus. Elles s'imposent sur leurs désirs, elles s'imposent sur leurs besoins et elles ne le cachent pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on les traite de parfois trop exigeantes. Elles ne vont jamais se marier, elles ne vont jamais... Parce qu'aujourd'hui, une femme... Moi, j'ai une personne qui a dit, cache à son mari, que tu ne me satisfais pas, point. Le débat de selon laquelle ta mère, ta maman, ce n'est pas mon problème. Je lui ai dit que maman soit quand même polie. Tu vois un peu. Donc, c'est un cercle vicieux de conséquences, de troubles mentaux de l'époque qui continuent souvent. Et si on n'arrête pas la chaîne, c'est d'où maintenant la venue de mon concept sexual. Parce que, figure-toi, quand je faisais ma thèse, état de stress post-traumatique et tout, mais les stats étaient énormes. C'est des patients qui avaient déjà eu un état de stress aigu ou qui étaient en état de stress post-traumatique. Et même dans le monde médical. Quand je crée le concept sexuel, parce que je me rends compte que la machine en marche, elle est violente. Et si on ne l'arrête pas, nos enfants vont se livrer à des pratiques sexuelles en oubliant même que, à la base, dans votre révolte, nous sommes quand même des Africains.
Oui.
Tu vois un peu, c'est pour ça que je peux me placer à volume 3. Je parle des sujets, comme on m'a dit que c'est à l'extérieur. Non, mais ça existe ici, parce que les dérives sont parties d'une population de personnes qui avaient des failles, des manquements, des blessures, qui a élevé des enfants qui, à leur tour, ont développé des mécanismes de défense contre ces blessures-là. Mais sauf que comme ils ne sont pas encadrés, ça va à la dérive.
Est-ce que les hommes et les femmes, docteur, subissent pareillement la même pression de l'hypersexualisation?
C'est deux choses. Tu vas te rendre compte que aujourd'hui, les hommes ont beaucoup de soucis de performance parce que les femmes en demandent beaucoup trop.
Merde.
Ouais. Ouais. Tu... ouais. Donc, tu vois, les femmes en demandent beaucoup plus. Est-ce qu'aujourd'hui, elles ne veulent plus être comme des mamans qui avaient. Moi, j'ai des patientes. Hein. Les gens pensent que je suis les jeunes. Non. J'ai des patientes de 65 ans qui m'appellent, qui me disent que... D'abord, ne sont mes patients, ma famille, tu vois. Mes grands-mères, leurs témoignages, c'est incroyable. Tu vois un peu? Elles supportaient un état parce que elle, ma grand-mère m'a dit la dernière fois, elle a souligné, ma fille, on n'avait pas, ma petite fille, on n'avait même pas l'occasion de se plaindre parce que ça paraissait sale, ça paraissait honteux et ça ne faisait pas partie de nos devoirs et de nos rôles de femmes de position de réclamer du plaisir à nos maris. Tu vois, c'était, quand je le dis aujourd'hui, peut-être elle ne le sait pas, quand elle m'a dit ça, ça a été trop puissant. Je me suis rendu compte de l'impact du concept. Tu vois un peu, parce qu'elle n'est pas même seule, parce que j'ai beaucoup de grands, mais les tantes de ma maman. Quand elle m'appelle, l'autre encore, elle m'a encore dit ça la dernière fois. Un peu. Donc, c'est pour dire que comme elles ont vécu ça dans le silence et que les enfants, parce que je dis toujours à mes patientes que parfois quand tu dégages une émotion, tu connectes ces émotions-là aux êtres qui gravitent autour de toi et qui tiennent à toi, même sans t'en rendre compte. Quand tu es malheureuse et que tu fais semblant d'être heureuse, tes enfants qui sont autour de toi ressentent ton malheur, même si tu ne parles pas. Et ils analyseront ce malheur-là et les causes de ce malheur. Et chacun va développer ça dans son esprit comme il voudra. Donc, c'est ça.
Et justement, quand on en parle, hein, on s'est bien rendu compte que l'hypersexualisation commence très tôt. Vous l'avez expliqué tout à l'heure avec les parents qui éduquent leurs enfants.
Et ceux qui n'éduquent pas du tout.
Déjà, l'hypersexualisation est perçue différemment dans le contexte africain, mais dans notre contexte, comment est-ce que les hommes réagissent aux femmes plus affirmées sexuellement et inversement? Comment ça se passe dans la réaction par rapport aux consultations?
La génération d'aujourd'hui est une génération... Les hommes ont compris que les femmes sont hypersexualisées. Les hommes ont compris que les femmes peuvent avoir des expériences sexuelles. Ils ont le souci des performances. Et moi, j'ai dit à... Je compte rencontrer Dr. Youm pour ça, parce que c'est un de mes maîtres, que dans 10 ans, on va se retrouver avec des garçons de 16 ans qui n'ont plus d'érection, qui n'arrivent même plus à voir leur pénis se lever. Parce qu'aujourd'hui, vu que les filles ont décidé de faire de leur corps une arme qu'elles contrôlent et non que quelqu'un contrôle, elles donnent aux petits garçons le souci. Et en fait, j'ai envie de dire quoi, le souci de la performance et développe chez eux un gros manque d'estime d'eux-mêmes.
Exactement.
Ça fait que les marchés comme les pilules aphrodisiaques illégales, c'est en train de grossir, de grandir. Des trucs pour grandir, faire grandir les pénis.
Oui, ça, c'est vrai.
C'est en train de prendre une extension qui n'est pas possible. Ça fait qu'on va se retrouver avec nos petits garçons bientôt.
Même
qui
les grands.
Dire, non, quand j'ai petit garçon, ça veut dire que vous, ceux-là vont mourir, non? Parce que les pilules vont les tuer. Le poutoulou va vous tuer un jour. Donc, ceux-là vont mourir. Quand vous allez mourir maintenant, ceux qui viendront, qui vont suivre, qui vont commencer ça tôt, ils vont même plus se mettre en érection. Même le taux d'infertilité va grimper. parce que ces trucs-là atteignent la fertilité masculine. Donc même le taux d'infertilité là, ça va grimper chez la gente masculine. Parce qu'ils prennent des pilules, ils veulent être avec des femmes, ils veulent prouver, indépendamment de leur papa qui n'avait pas trop à prouver parce que les femmes ne s'exprimaient pas, elles ne se libéralisaient pas, elles n'exigeaient pas une certaine performance, une certaine satisfaction sexuelle.
Justement, parlant de ce désir de performance, de ce besoin d'être bon, comment est-ce que les hommes, eux, peuvent être, et les femmes d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut être sensuel sans tomber dans la sursexualisation ?
La sensualité, ce n'est pas... Moi, j'ai envie de dire à mes petites sœurs aujourd'hui que la sensualité, ce n'est pas un vêtement. La sensualité, c'est une posture. Là, c'est parce qu'il y a des personnes qui veulent bien être sensuelles. Il y a des personnes qui dégagent une certaine sensualité naturelle. Ce sont des femmes qui ont une énergie féminine qui est très grande, tu vois. Maintenant, quand tu es dans cet état d'esprit, que tu sens que tu as une énergie féminine qui déborde, tu ressens une certaine satisfaction à sentir que tu es désiré, que les gars te
mangent dans la main, quoi.
Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est justement allier cette énergie-là à de l'intelligence et à quelque chose, à la grandeur. Parce que quand tu es intelligente et que tu es élégante dans ta sexualité, tu n'as pas besoin de te dénuder pour que les gars te courent après. Tu vois un peu? Les gens vont dire que... Je vais prendre un exemple d'une influenceuse camerounaise chez qui j'ai constaté qu'elle a une énergie féminine. Mais après son scandale, elle a très vite, j'ai compris qu'elle a fait un gros travail de développement personnel sur elle pour savoir comment exploiter cette énergie féminine-là pour paraître élégante. Je vais prendre l'exemple sans publicité, c'est permis.
Vas-y.
De Nathalie Kowa.
Oui.
Tu vois un peu. Quand je regarde souvent les posts de cette dame, je comprends qu'en fait, c'est une fille qui était hyper sexualisée. Et comme elle voulait, elle a réussi à dégrader. Donc, elle a utilisé l'image qui était vendue. Parce que l'erreur est humaine. Donc, en même temps, c'est pas, je ne suis pas en train de la dédonner, machin. Mais je n'ai pas une analyse de cas pratique. Elle a réussi à comprendre qu'elle a une énergie féminine. Mais pourquoi on ne pense pas juste à la B?
Oui.
Tu vois? Elle a retourné ça pour être élégante.
Oui.
Et dans son élégance, tu vas ressentir du charme, mais pas de l'exposition ni de l'hypersexualisation. Tu vas pas la voir parce que moi, souvent, quand je suis sur mon téléphone, je regarde les personnages, je me dis, moi, je suis tout dans ma santé mentale. Je ne suis pas déconcentrée. En aucun moment, elle me déconcentre. Je suis tout focus sur mes objectifs. J'ai vu, c'est plus, tu vas voir. Elle dégage quelque chose de féminin, mais de respectable, malgré ses antécédents. Tu vois un peu. Donc, c'est pour dire à nos jeunes sœurs que tu peux être sexy. C'est ça qui nourrit ta confiance en toi. Parce qu'en même temps, on n'est pas dans le jugement. Chacun a ce qui nourrit. Moi, ce qui nourrit ma confiance en moi, c'est de venir m'asseoir et essayer de comprendre que j'ai bien retenu mes leçons et que voilà, le truc, ça passe. Tu vois un peu. Donc, si c'est ça qui te nourrit, qui est ton carburant et tout, exploite ça de manière intelligente pour ne pas donner de mauvaises informations, ne pas véhiculer de mauvaises informations à réellement ce que tu veux faire. Je prends un exemple. Tu es une jeune femme, tu ressens que... Monde au balcon. Mais dans ton monde au balcon, c'est pas que tu dois mettre littéralement le monde au balcon.
Oui.
C'est que ce monde au balcon-là, tu peux t'habiller de manière très élégante. Pour que quand tu passes, tu vois, ma tante a dit qu'elle doit te dire que tu dois arrêter ce que tu fais à la radio. Tu as les nouvelles de ma famille. On t'a envoyé les nouvelles. Donc, tu vas voir du monde au balcon. Et, mais tu vas te dire, mais quand je marche poitrine haute, tête bombée, tête haute et tout, mais tu peux bomber ta poitrine sans la mettre dehors.
Bien sûr. Col roulé. Oh mon Dieu.
Il faut pas qu'on s'égare. Nous sommes des Africains, j'insiste. Quand je dis le conseil c'est pour la promotion de l'éducation sexuelle en Afrique, c'est parce qu'il faut que les valeurs africaines soient maintenues. À un moment donné, si on se perd dans tout ce qui est occidental et européen, on n'a plus d'identité du tout. Donc c'est ça.
Les amis, hypersexualisation partie 1, c'est terminé aujourd'hui. Ce sujet
c'est
est très grand. J'ai d'ailleurs plusieurs autres parties.
Il y a
l'impact sur l'estime de soi dont on va parler. Il y a également l'impact sur les performances dont on va parler. L'impact médical aussi. On en parlera la semaine prochaine. Merci le docteur d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il y a plein de messages que les auditeurs qui sont arrivés. On va les épurer la semaine prochaine, rassurez-vous. Ce sujet est bien large, je l'avais dit la semaine dernière, on va en parler. Merci à vous d'être connectés. Les programmes continuent sur Volume 3.
Vibrez au rythme de la matinale. La matinale la plus déjantée de la bande FM. La bande FM.
Quel coquin.
Fais le plein d'énergie dans
L'Avant-10h
avec John et toute son équipe.
Bah, si on va le 3.